France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Retrouvons aujourd'hui la suite des souvenirs que la pianiste, claveciniste et chef de chant Janine Rice avait confié à Gaël Le Gallic dans l'émission Mémoire retrouvée, un entretien diffusé en 2002 sur France Musique. En tant que chef de chant, Janine Rice a accompagné les plus grandes stars de la scène lyrique, comme Maria Callas, qu'elle a fait travailler pendant presque 10 ans. Janine Rice nous racontera avec émotion les moments forts de cette collaboration amicale et sincère avec la Callas. Avant cela, Janine Rice évoque sa première carrière, celle de claveciniste, qu'elle a débutée ici même, à la Maison de la Radio.
Un autre souvenir, Janine Rice, le déclic peut-être qui va lancer votre première carrière, celle de claveciniste. On écoute ensemble, si vous le voulez bien, micro ouvert pour saisir toute votre surprise. Vous parliez de la Maison Ronde, l'ORTF et vos débuts de carrière. Ça, c'était une œuvre de départ de carrière, ce Franck Martin.
Écoutez, je l'ai beaucoup joué. C'est vrai que c'est à cette maison, enfin, je devrais dire à M. Pierre Capdevielle, que je dois d'avoir débuté comme claveciniste. Il m'a dit, j'ai un Didon aîné à vous proposer, parce que là où j'en suis maintenant avec mon orchestre de chambre, je confie le soin de former des chanteurs à des pianistes, excellents musiciens, chefs de chant, etc. Mais je dois prendre quelqu'un pour venir faire le continuo, qui donc n'a pas fait la route avec ses chanteurs. J'ai commencé d'être la claveciniste de l'orchestre de chambre pendant des années. Et là, évidemment, j'ai joué aussi des œuvres pour clavecin et orchestre. J'ai joué aussi le concert champêtre de Poulenc pour clavecin et orchestre. Et puis, voilà, j'ai repris des leçons de clavecin avec Madame Vandeville. Et puis, lorsque j'ai pu, plus tard, je me suis fait faire un clavecin parce que je suis allée avec l'orchestre de chambre à Strasbourg, justement pour jouer une œuvre de Haydn pour clavecin et orchestre de chambre, donc là en soliste, et je suis tombée sur un clavecin merveilleux, enfin que je trouvais très très beau et qu'il était certainement Kaufmann. Et j'ai commandé un clavecin qui a heureusement mis des mois pour arriver, parce que comme ça j'ai mis des sous de côté pour le payer.
Io te già doni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
Colleparello mio, va tutto bene.
Don Giovannino mio, va tutto male.
Come va tutto male?
Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
Bravo!
A forza di chiacchiere, di vecchie, di bugie,
ho imparato si bene a star con voi.
Cerco di intrattenerli.
Bravo!
Dicomi le cose a masetto per placarlo, per trarmi dal pensiero la gelosia.
Bravo, incoscienza mia!
Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita ver.
In sul più bello, chi credete che capiti?
Serlina.
Bravo. E con lei chi viene?
Don Elpira.
Bravo.
E disse di voi
tutto quel male che in bocca le venia.
Bravo, bravo, in coscienza mia.
E tu cosa facesti?
Fa qui.
Ed ella
segui a gridare.
E tu?
Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi.
e con ben arte chiusa la porta, la chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
Bravo, bravo, oreci bravo, l'affare non può andar meglio. Tu incominciassi, io saprò terminare. Troppo mi premono queste contadinotte, le voglio divertir finché di notte. Falla la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca minore, te con quella cerca minore, cerca minore, cerca minore. Senta pure ordinello dalla sia, chi il minuetto, chi la follia, chi l'alemanna pare valar, chi il minuetto pare valar, chi la follia pare valar, chi l'alemanna pare valar. E Dio frattanto dall'altro canto con queste quella amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar. Alla melista domma mattina d'una decina deve mentare, alla melista d'una decina deve mentare. Si trovi in piazza qualche ragazza di con quella cerca minare. Alla melista domma mattina d'una decina deve mentare, senza alcun ordine la natasia, il minuetto di la follia, chi la rimanda pare valore. Domma mattina, una decina devi aumentare, una decina devi aumentare, una decina devi aumentare, devi aumentare, devi aumentare, devi, devi aumentare.
Le duo Don Giovanni Leporello, Ruggero Raimondi, José Vandamme, au clavecin Jeannine Reiss, au pupitre Laurine Mazel, l'Orchestre National de l'Opéra de Paris pour la bande originale du film de Joseph Losey. Je vous propose de repartir tout de suite dans les souvenirs de Jeannine Reiss au sein des orchestres de l'ORTF de l'époque.
Vous voyez, j'avais deux activités, enfin j'avais, on peut dire, si vous voulez, trois activités parallèles ici, c'est-à-dire des concerts de musique de chambre, soit dirigés par M. Capdevielle, soit dirigés par André Girard, soit dirigés par les chefs qui étaient conviés à diriger l'orchestre de chambre, soit pour faire des continuos, soit pour faire des opéras avec continuos de clavecin. Je faisais énormément pour le service de musique de chambre de récital, avec des chanteurs, vous voyez. Donc on préparait, j'en ai fait avec énormément de chanteurs ici. Là, évidemment, plus j'avançais dans la carrière, plus le niveau des chanteurs que l'on me confiait ou qui se confiaient à moi était élevé, mais meilleur, vous voyez. Et puis, donc, j'avais cette troisième activité qui faisait que on m'engageait, parce qu'on savait que j'avais une bonne lecture. Vous savez, on n'a jamais beaucoup de répétitions. Et donc, j'avais une bonne lecture et je faisais de la musique contemporaine. Donc, c'est vrai que ma vie a été une succession de choses qui m'ont été apportées comme ça. Michel Glotz, un jour, j'étais en leçon, m'a téléphoné en me disant « Jeannine, tu veux prendre ton carnet, s'il te plaît, la semaine prochaine, Maria Callas à Paris, et j'aimerais que vous ayez un rendez-vous. » Et je lui ai dit, car de plus, j'ai un fils, Francis, le rhumato, qui est un... Bon, il fait, paraît-il, un très bon médecin, mais il aurait dû faire un... Je ne sais pas, un clown ou un artiste de théâtre, un imitateur, voilà, parce qu'il a une oreille fantastique et il imite des voix à moi, sa mère. Je réponds avec le plus grand sérieux aux choses les plus énormes et invraisemblables sans reconnaître sa voix. Donc j'ai dit, écoute Francis, je suis en pleine leçon. Et Michel m'a dit, je crois que tu n'as pas bien compris mon nom, c'est Michel, Michel Glotz. Et à ce moment-là, j'ai toujours un doute en second, que l'autre peut tellement bien imiter la voix de n'importe qui, comme ils ont été élevés dans ma maison, qu'ils ont connu tout le monde, etc. Il me dit, je ne plaisante pas du tout. Mais là, je lui dis, alors Michel, si tu ne plaisantes pas, ça veut dire quoi, Maria Callas, c'est moi. Oui. Il m'a dit, bah écoute, ça veut peut-être rien dire, mais elle vient la semaine prochaine s'installer à Paris, elle doit faire un enregistrement qui va durer assez longtemps, qui va s'appeler Callas à Paris, où elle ne fera que des airs de l'opéra français. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour la faire travailler. Et je peux te dire une chose, c'est que si ça ne marche pas entre vous, avant la première demi-heure, tu le sauras. Bon, donc, j'ai attendu Madame Callas. Elle est arrivée prodigieusement exacte. Elle l'a d'ailleurs été pendant presque 10 ans. Je lui demandais parfois si elle attendait derrière la porte que l'heure vraiment sonne pour frapper. Et donc elle est venue chez moi, et encore une fois, comme Monsieur Capdevielle, et vous allez me faire la réponse que vous m'avez faite tout à l'heure.
Oh, pas deux fois.
C'est moi qui vous la ferai. J'ai reçu Madame Callas avec la courtoisie et bon que j'essaye d'avoir du mieux que je peux. Elle est rentrée dans le salon, elle a regardé autour d'elle et elle m'a dit « Au-dessus de chez vous, il y a quelqu'un ». C'était presque sa première leçon. Et j'ai compris pourquoi elle me faisait cette question. D'autant plus que, au-dessus de chez moi, au 7e étage, il y avait une dame qui s'appelait Hilda Nisa et qui avait été une grande chanteuse. Donc, j'ai pu lui répondre, sans mentir, non, il n'y a personne. Car Hilda était venue me dire au revoir la veille ou l'avant-veille. Ah bon ? Bien, écoutez, alors je voudrais travailler l'air de Leila. Bien, je vais chercher ma partition, je suis assise au piano, et elle m'a dit, vous chantez? Je lui ai dit, ben non, ça ne s'appelle pas chanter, mais enfin, je donne la réplique. Elle m'a dit, non, mais il n'est pas question de réplique, puisque c'est un air, je voudrais vous l'entendre avec le français, avec le phrasé, comme vous le voudriez. Bon, alors, toujours aussi bêtement tranquille, je dois dire. Je me suis assise au piano et j'ai commencé par le récitatif « Me voilà seule » dans la nuit.
Heureusement, c'était dans votre tessiture.
C'était dans ma tessiture, comme vous dites. Mais enfin, il paraît que les rôles de basse maintenant...
Ça vous va aussi.
C'est ce que j'ai de mieux adapté. Alors, quand nous sommes arrivés, et c'est surtout pour ça que je vous raconte cette histoire, juste à la fin, il y a une cadence pour terminer cet air. Comme vous le savez, chère madame, vous qui connaissez l'art lyrique, elle m'a posé la main sur... ma main au piano, sur le clavier, et elle m'a dit « Attendez, avant de me chanter la cadence, je voudrais que nous voyions comment elle est construite. » Et ça, je me suis dit « Alors ça existe, je suis arrivée au port. » Elle avait une réaction d'instrumentiste. Vous voyez, un instrumentiste, un pianiste, un violoncelliste, un oboïste, enfin, regarde d'abord les différentes phrases de la cadence, les différentes cellules rythmiques, harmoniques. Oui, c'est ça, l'architecture. Et je lui ai dit, bien voilà, c'est divisé, à mon avis. Comme ça. Bien alors maintenant, vous pouvez finir l'air. Et elle m'a dit, bon, mais maintenant je vais le travailler. Au bout d'un peu plus d'une heure, comme ça, elle est repartie chez moi. Et elle m'a dit, bon, alors, demain, la même heure. Oui, 18h, madame, oui. Je l'ai accompagnée à la porte, et là, même crise nerveuse qu'après Capdevielle. Claquer les dents, obligée de m'ouvrir les dents, vous voyez, pour me faire boire quelque chose. Mon mari était dans tous ses états, me disant, enfin, qu'est-ce que tu as ?
Il était là ?
Oui, il était là quand elle est partie, il était rentré. Et je lui ai dit, mais enfin, ne me demande pas ce que j'ai, tu te rends compte, j'avais Maria Callas ici chez moi, et je ne sais même pas comment je me suis comportée. Ben, il m'a dit, tu t'es comportée comme tu le fais d'habitude. Oui, mais justement, c'est... Bon. Et le lendemain matin, vers 11h, midi, comme ça, elle m'a appelée. Et je me suis dit, ben voilà, elle me décommande. C'est évident.
Elle manque de confiance en soi. Non, c'est une émotion,
oui,
je comprends.
Oui, c'est...
Voilà,
il faut, vous savez... Il faut avoir de la confiance en soi, non, et en même temps, il faut remettre cette histoire-là en question
bien sûr, tout le temps.
Enfin, en tout cas, c'est ce que je dis souvent à mes petits jeunes. Et elle m'a téléphoné, et bien sûr, mon instinct a été de me dire, bon, elle est partie en me fixant un rendez-vous parce que c'était plus courtois, et maintenant, elle se décommande. Alors, elle m'a dit, voilà, je voulais vous dire, je vous confirme mon rendez-vous de ce soir, 18h. Et puis alors, très vite, je voudrais vous dire quelque chose. Traitez-moi comme vous m'avez traité hier soir. Alors là, j'ai dit, mais madame, que voulez-vous dire ? Eh bien, quand j'ai commencé, moi, à chanter cet air, vous m'avez arrêté, vous avez corrigé certaines choses. Elle parlait un français très fluide et très beau, mais bien sûr, quand on chante, c'est aussi un peu différent. Vous m'avez corrigé, vous avez changé une ou deux des respirations, et je vous remercie. Et j'espère que nous continuerons dans les mêmes conditions. Et le soir, quand elle est arrivée, je lui dis, pourquoi m'avez-vous dit ça ce matin? Parce qu'elle m'a dit, vous savez ce dont j'ai horreur. Et c'est vraiment encore un hommage que je dépose à ses pieds. Ce dont j'ai horreur, c'est quand on me traite comme Maria Callas et qu'on me dit que je suis divine. Je sais que je ne suis pas divine. Car je sais que pour obtenir un résultat, il faut travailler et sans cesse se remettre en question. Donc, vous m'avez fait travailler comme si j'étais n'importe qui.
Je frissonne, je pleure.
L'air de Leila, extraite des Pêcheurs de Perles de Georges Bizet, Maria Callas, sous la direction de Georges Prêtre, à la tête de l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. Votre opinion, Jeannine Reiss, sur cette subtilité extrême qu'est l'art du chant et qui le rend justement si difficile à maîtriser ?
Je considère, après avoir pendant des années rôdé la question, de tous les arts de la musique, je crois que l'art vocal est le plus difficile parce qu'il est le plus complet. Ça fait appel absolument à toutes les qualités qu'un être humain peut avoir dans le domaine artistique, c'est-à-dire d'abord et avant tout l'exercice physiologique de la voix, qui comporte le souffle, le bâillement, la position des sons et toutes ces choses-là. Et ensuite, l'étude de la musique, car de plus en plus, et bien heureusement, les chanteurs sont musiciens, savent lire la musique. Je sais que ça paraît un peu curieux lorsque l'on dit ça, mais moi, je connais des chanteurs qui ont fait toute une carrière sans pratiquement lire la musique. Mais maintenant, c'est impensable, vous comprenez, c'est à cause des Américains. Les Américains sont arrivés sur le marché avec une manière de travailler que nous ignorions complètement en Europe. C'est-à-dire une manière panoramique d'essayer de tout effleurer, en tout cas, même plus qu'effleurer. Vous voyez, la première fois que je suis allée travailler au Met, on a su que personne ne savait qui j'étais, sauf celui qui m'avait engagée. Mais là aussi, ça m'est arrivé un beau matin par le courrier. Hein. Nous avons entendu parler de vous et nous voudrions savoir si vous seriez libre l'année prochaine. Alors là, je ne sais plus quel opéra, parce que j'en ai fait beaucoup. Mais voilà.
Des artistes que vous aviez rencontrés sur une production.
Oui, probablement, oui. Vous voyez, voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je vous raconterai autre chose sur Covent Garden, si j'y repense. Mais donc, on savait qu'il y avait un French coach qui était arrivé au Met. Et très peu de temps après, comme j'y restais assez longtemps, j'ai eu de jeunes chanteurs américains qui m'ont demandé si je pouvais leur donner des leçons sur le répertoire français, des mélodies, des airs, etc. Et tous m'ont demandé, sachant que j'étais pianiste moi-même, s'ils pouvaient amener leur pianiste. Mais j'ai dit, mais naturellement, mais bien sûr. Et ils m'ont dit après, parce que vous comprenez, comme ça, il me refera travailler en ayant entendu. Bon. Et plusieurs fois, bon, bien sûr, ils m'apportaient plutôt des mélodies françaises, du Poulenc, du Fauré, Reynaldo Hahn, etc. Et ils me disaient, vous avez de la chance, vous comprenez, parce que vous avez des traditions et nous n'en avons pas. Et je leur répondais à chaque fois ce que je pensais profondément et que je pense toujours, on y soit qui mal y pense, c'est que quand on s'appuie sur ces traditions, il faudrait, dans le meilleur des cas, qu'elles vous aident à avancer. Et qu'elle vous aide aussi à penser que tant mieux pour nous si nous avons des traditions, mais alors qu'il faut continuer de les faire vivre, qu'il faut continuer de les fouiller, de les interroger pour savoir si on peut aller plus loin avec nos traditions. Car si le fait d'avoir des traditions nous fait stagner à l'endroit où nous sommes, malheureusement, c'est ce qui est arrivé de temps en temps. Et donc, ils me disaient, vous avez des traditions, et je leur disais, mais béni soyez-vous qui n'en avait pas, parce que ça vous donne une curiosité qui peut-être à nous manque. Vous voyez,
le risque de se figer, regardez, de se fossiliser.
Absolument. Ouais. Quand mon père m'a dit « tu devras travailler des langues étrangères », il était une espèce de précurseur, parce qu'on pensait que le français était toujours la langue des ambassades.
Ouais, bien sûr.
Vous voyez, qu'on était toujours au siècle d'or.
Maria Callas, une très belle rencontre, même si elle fut très impressionnante à plus d'un titre, Jeannine Reiss. Est-ce qu'avant de travailler avec elle en privé, vous l'aviez vue sur scène ?
Non, je l'ai vue quand elle est venue à l'Opéra de Paris pour faire ce concert avec les chœurs de l'Opéra. Et puis après, bien sûr, alors là, je la connaissais, je l'ai vue faire Tosca à l'Opéra de Paris. Et puis elle m'a emmenée à Londres, où elle faisait son retour à Covent Garden avec Tosca.
Donc encore. On est dans les années 70 ?
À peu près, oui. C'est ça, oui. Elle m'a dit, je voudrais que tu viennes avec moi à Londres. Et je n'étais jamais allée à Londres. Alors là, c'était avant, vous voyez, parce qu'à Londres, moi j'y suis allée, je crois, en 66 ou 67 pour le Pelléas de Pierre Boulez. J'ai très très peu la mémoire des dates. Et elle avait... C'est très curieux, parce que quelquefois, vous voyez, on me parle d'une Maria Callas que moi je n'ai jamais connue.
Oui, bien sûr.
Et c'est pour ça que, tout de suite après sa mort, lorsque je suis revenue à Paris... et qu'on a commencé à savoir que j'avais travaillé avec elle, parce que je ne le disais pas que je travaillais avec Maria Callas, parce que je me disais qu'on n'allait pas me croire. Alors je ne le disais pas. Et il y a eu chez moi deux scènes incroyablement comiques. Agnès Disney, qui était dans Le Métier, qui était un grand soprano, qui a fait une très belle carrière, elle a chanté à l'opéra des Valkyres avec le casque et la lance. Un jour, elle attendait chez moi pour travailler. Et comme Maria devait venir après elle, et que Agnès Disney était chez moi comme chez elle, vous voyez, et moi j'étais à la radio, je lui ai téléphoné en lui disant « Écoute, excuse-moi, mais j'aurai un quart d'heure de retard. » Elle me dit « Oh, ça ne fait rien, je suis très bien chez toi, etc. » Et alors, j'avais pris un petit battement avec la leçon de Maria pour ne pas... renier sur l'heure d'Agnès, et elle me dit « Oh, écoute, tu as vraiment des folles. Tout à l'heure, ton téléphone a sonné, et j'ai entendu une voix qui me disait « Allô, je suis Maria Callas, est-ce que je peux parler à Jeanine Reiss ?» Et je lui ai répondu « Oui, oui, c'est ça, moi je suis Marie-Antoinette avant qu'on me guillotine. » Bon, eh bien, je ne lui ai rien dit. Et une autre fois... Michel Hamel, avec lequel j'ai beaucoup œuvré toujours dans votre maison, car il faisait, vous voyez, c'était un trial qui avait beaucoup de talent, qui était très drôle, qui était vraiment un comédien, un chanteur extraordinaire. Il était venu travailler chez moi quelque chose pour lequel la radio me l'avait envoyé. Et après lui venait Maria. Alors... je le raccompagne à la porte, je fais rentrer Maria, nous commençons à ouvrir nos partitions, on frappe à la porte de mon salon et je dis « Entrez ». Et Michel me dit « Excusez-moi Jeanine, j'ai dû oublier mes lunettes sur le piano ». Alors il rentre dans le salon, il dit « Bonjour madame ». Il me dit « Excusez-moi de vous déranger ». « Ah, voilà mes lunettes ». Il donne un regard à Maria avant de sortir du salon, je l'amène jusqu'à la porte et il me dit « Alors Jeanine, il paraît que nous avons tous un sosie, mais un sosie comme celui-là de Maria Callas, ça je n'ai jamais vu ». Et je lui dis « Non, moi non plus ».
La prière de la Tosca de Puccini, Maria Callas, avec l'orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, dirigé par Victor de Sabata en 1953. Janine Reiss.
Dans l'idée de beaucoup de chants et encore maintenant,
que sont les mythes ?
C'était un mythe, c'est le vrai mot. Alors, elle ne pouvait pas... Pas la question, peut-être même venir travailler chez moi, ce que personne n'aurait pu penser, mais même penser qu'elle travaillait. Or, Maria Callas n'a peut-être pas passé un jour de sa vie sans travailler. Un jour où elle ne travaillait pas, pour elle, était un jour sans intérêt. Et puis, il faut dire que la fin de sa vie n'a pas été très gaie, car vous savez, quand vous avez eu cette notoriété mondiale, et que vous ne chantez plus sur les grandes scènes et que vous avez été détrôné, à quel point les vrais amis, on en fait très vite le compte, j'enfonce une porte ouverte là, vous voyez, c'est un lieu commun, mais c'était quand même très vrai. Et donc c'est vrai que c'était le chant, la musique qui continuait de la faire vivre.
Quand elle est venue chez vous, elle était déjà sur le déclin ? Où elle était encore en pleine maturité.
Elle avait quelques problèmes vocaux, mais elle pouvait encore les résoudre, vous voyez. Vous savez, elle me disait souvent à ce sujet-là qu'elle avait commencé à chanter, elle avait 14 ans.
Oui. Hein,
et elle me disait, tu sais, ça me faisait drôle quand j'ai commencé la carrière, parce que j'allais dans les théâtres, et le matin, j'arrivais pour travailler... Et j'entendais le ténor qui vocalisait jusqu'au contrute, le mezzo qui... Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils font tous ces exercices ? Moi, je n'en fais jamais. Quand elle m'a raconté ça, je lui disais, mais que veux-tu dire ? Non, je m'asseyais pendant des heures au piano et je travaillais mes partitions. Si bien que vous voyez, pour elle, le chant n'avait pas ce côté... sportif, malgré tout, qu'il faut avoir. La durée du souffle, la façon de l'utiliser. Elle me disait, moi, il n'y avait qu'une chose qui me passionnait. M'entendre vocaliser, ça m'ennuyait au maximum. Donc, ce qui m'attirait avant toute chose, c'était l'étude de la partition. Essayer de comprendre ce que le compositeur voulait de moi. Et vous comprenez, c'était une femme qui avait une véritable culture, une conversation avec elle, c'était un enrichissement. Voilà, donc elle me disait, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Des heures, je restais au piano à travailler mes partitions. Mais faire ma voix, pourquoi ? Elle n'avait qu'à être là.
Mais quand elle vous disait cela, elle avait mesuré ce qui avait apporté la détérioration de cette voix, de cet organe.
Alors, elle m'avait
C'était
dit
une
à
réflexion
ce sujet,
sur cette détérioration.
Oui, bon, elle m'avait dit à ce sujet, je l'ai su à un certain moment, j'ai chanté trop de choses qui n'étaient peut-être pas toutes pour moi.
Entre Leïla et Carmen,
il y a une grande marge. Et même Dalila, vous voyez, oui. la damnation. Je crois que c'est un jour avec Monsieur Bouteiller ici qu'il m'avait demandé de passer peut-être le disque que je choisirais de Maria, et j'avais choisi la damnation. D'amour, l'ardente flamme par elle. Parce que vous comprenez, il y a une telle lecture de la partition que... C'est pour ça qu'à mes yeux, elle est inattaquable. Alors, quand on dit, oui, mais vous comprenez, la voix... Mais d'accord, mais il y a des gens qui gardent leur technique vocale et leur instrument jusqu'au bout de leur vie et qui vous ennuient à chaque fois qu'ils font trois notes. Et elle souffrait beaucoup avec elle-même.
Hein. Ça n'était plus récupérable du tout quand vous l'avez rencontrée ? Ou est-ce que vous avez fait justement avec elle ce travail de technique ou d'assouplissement des cordes vocales ?
Non.
Qu'elle n'avait jamais fait ?
Non. Vous savez, moi, presque 10 ans, nous avons travaillé ensemble, et beaucoup. Quand j'étais à Paris et qu'elle voulait travailler, qu'elle n'était pas en Grèce, où nous travaillions tous les jours de la semaine, hein, du lundi au samedi, tous les jours. Elle m'apportait des airs à chanter, des opéras à travailler. Elle reprenait des choses qu'elle n'avait pas chantées depuis des années. Elle voulait en refaire d'autres qu'elle avait oubliées. Donc on faisait beaucoup de musique, énormément de réflexions musicales, de réflexions dramatiques. Médée, par exemple, on a beaucoup retravaillé Médée. Et vous voyez, je sentais instinctivement qu'il eût été malvenu de ma part de lui dire « Écoute, on va travailler techniquement », parce que c'était peut-être la poser toute nue devant une glace qu'elle n'aurait pas voulu regarder. Vous voyez, elle était aussi tellement scrupuleuse à l'égard de ce qu'elle faisait elle-même, musicalement, sur la clarté du texte et sur les intentions dramatiques, que non, je ne m'en suis pas estimé le droit. Seulement, s'il y avait un son qui était par exemple bas, ou qui vraiment, n'était pas stable, je lui disais, écoute Maria, on va le recommencer. Et elle me disait, je sais pourquoi tu veux qu'on le recommence. Voilà, si vous voulez, absolument la manière dont nous travaillions. Mais vous voyez, lorsque nous travaillions, et pas du tout parce qu'elle travaillait avec moi, mais tout simplement lorsqu'elle était face à un ouvrage, je ne peux pas dire qu'elle avait l'air de souffrir.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Elle devenait musique avec l'instrument qu'elle avait.
Voilà, elle devenait musique, alors elle recommençait elle-même. Par exemple, elle me disait, non, ça c'est mauvais, on recommence. Oui. Par exemple, un jour, je vous disais, elle a voulu retravailler Médée. Elle était terrifiante dans Médée. Terrifiante de dramatisme.
D'incarnation véritable.
D'incarnation véritable, c'est tout à fait ça. Et donc, à un moment donné, je l'ai regardée, je l'accompagnais, j'étais bien sûr au piano, et je l'ai regardée, et je ne sais pas quelle était l'expression sur mon visage, mais elle s'est arrêtée, elle m'a dit, mais pourquoi me regardes-tu comme ça? Et je lui dis, mais Maria, parce que tu me fais peur. Et alors elle a eu un rire, et elle avait un rire charmant, parce qu'elle avait un rire très, très frais, très jeune, comme ça. Elle avait, sortant de ce drame, vous voyez, elle a eu une espèce de rire comme ça, très prime sautier, et elle m'a dit, ah, oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que tu me regardais comme ça parce que tu trouvais ma voix laide. Et elle a ajouté, mais Jeannine, ce n'est pas à toi que je vais expliquer cela. Une femme sur le point de tuer ses enfants, elle ne doit pas chercher le beau son, elle doit chercher la souffrance.
Stop!
Giulio Serafin à la tête des musiciens de l'orchestre du Théâtre de la Scala de Milan en 1958 avec Maria Callas dans le rôle de Médée de Cherubini. Jeanine Reiss, est-ce que Maria Callas était malgré tout suivie par une oreille extérieure, comme beaucoup de chanteurs en ressentent la nécessité d'ailleurs? Est-ce que, en dehors d'un chef de chant ou d'un chef d'orchestre, elle avait un contrôle régulier?
Non. Elle ne faisait pas confiance d'une manière générale à des gens qui lui aurait fait faire de la technique pure. Elle en avait peur et elle pensait aussi que ça n'était pas nécessaire. Que voulez-vous ? Voilà, c'était ainsi. Elle a eu une carrière très très longue, étant donné que je crois bien ne pas me tromper en disant qu'elle a chanté Tosca, elle avait 17 ans. Oui. Bon, donc elle a eu une carrière très longue en chantant tout Lucia à Dalila, comme vous disiez tout à l'heure. Et elle disait, que veux-tu, j'ai trop demandé à ma voix. Et elle m'a dit souvent aussi, d'ailleurs tu sais, quand je rentre en scène, je ne suis plus une chanteuse. Et sur le moment, je lui dis, mais tu veux dire quoi? Mais je ne suis plus une chanteuse, ma voix ne m'importe plus quand elle sort, et je vous assure que c'est vrai qu'à certaines fois, voyez-vous, quand je l'ai vue dans Tosca, et surtout à Covent Garden, là où elle a été vraiment particulièrement en forme, là aussi, elle m'a effrayée, et pourtant, nous avions beaucoup vu ce Tosca ensemble, mais d'abord, elle était vraiment, c'était devenu depuis très longtemps une très 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 belle femme. Elle était d'une grande élégance, d'un grand raffinement, d'une grande classe. Et en scène pour Tosca, voyez-vous, lorsqu'elle a tué Scarpia, et que suivant cette légende, bien sûr maintenant, j'aurais tendance à dire que l'on enterre Scarpia dans le métro et que Tosca s'enfuit en blue jean, mais lorsqu'elle a tué Scarpia et qu'elle prenait les deux candélabres dans sa main, et que toujours suivant la tradition, elle les posait à la tête de Scarpia étendue par terre, au moment de poser ces deux candélabres, elle avait un recul parce qu'elle avait peur du cadavre. En somme, elle avait peur de la mort affrontée. Ce à quoi, pauvres humains, nous ne sommes jamais préparés, même si nous savons que c'est la fin, je crois, que la vue du cadavre. Et elle avait des choses qui étaient sur le plan humain tellement simples et tellement géniales que c'est vrai que pour moi, c'est vrai que ça balayait absolument tout le reste. Et je vous assure que pendant toutes ces années, je ne me suis jamais fermé les oreilles à ce qui pouvait être soi-disant des défauts, mais j'essayais de les contourner, j'essayais de lui donner confiance. Elle avait une grande confiance. Elle m'aimait bien, voilà. Je peux dire ça avec énormément de tendresse posthume. Elle était contente de venir chez moi. Elle était quelquefois, parce que j'avais des enregistrements ou des choses au dehors, comme ça je lui disais, écoute Maria, je lui téléphonais le matin quelquefois ou la veille en lui disant, écoute, je vais venir chez toi si tu veux. Et puis je prendrai un taxi de chez toi au lieu de, tu vois, que toi tu viennes chez moi. Et ça lui faisait plaisir parce qu'elle restait chez elle. Elle n'aimait pas tellement sortir non plus parce qu'elle était très souvent la proie de, comme toutes les stars. Mais alors elle restait chez elle, elle mettait un de ses fameux cafetans brodés. Mais elle était toujours d'une extrême élégance et d'une extrême simplicité. Et dès que l'on arrivait, dès que j'arrivais, il y avait une partition qui était sortie. Et quelquefois, elle me faisait entendre une cassette qu'on lui avait envoyée, qu'elle avait reçue depuis plus longtemps et qu'elle n'avait pas encore écoutée ou qu'elle voulait réécouter avec moi. Et je me souviens qu'un jour, elle m'a fait entendre une cassette pirate qu'on lui avait envoyée et qui était Entführung, l'enlèvement au sérail, en italien, par elle. Alors j'écoute ça, c'était divin, parce que c'était la grande époque et c'était absolument divin. Les vocalises, c'était absolument merveilleux. Et à la fin, je lui dis, mais Maria, tu le chantes en italien? Pourquoi? Ah, elle me dit, parce que j'ai horreur de chanter en allemand. Alors ça, non, ça, il faut absolument chanter. Tu comprends, l'italien, c'est une langue musicale. Je me suis mise à rire et elle m'a dit, mais je sais que tu as raison, mais n'essaye pas. Je n'essaye pas.
Elle qui était si puriste, là, pour le
voilà,
coup.
Voilà, exactement. Mais pour ça, non, voilà, c'était comme ça qu'elle avait plaisir à chanter.
Thank you.
extrait de l'enlèvement au sérail de Mozart, Maria Callas et l'orchestre de la RAI, dirigé par Alfredo Simonetto au casino de San Remo en 1954. Janine Reiss, on a toujours présenté Maria Callas comme un être isolé, très seul, même s'il était très entouré, au-delà même peut-être de ce qu'elle pouvait souhaiter par trop de fans, mais les amis, les vrais amis étaient sans doute assez rares.
Elle était, c'est vrai, très isolée. Alors évidemment, à la fin de sa vie, il y a eu cette espèce de petit rebond avec Di Stefano. Mais bon, elle s'est sentie moins seule pendant un moment, mais de ça, j'aime mieux ne pas parler. Une fois seulement, je suis arrivée et Bruna, sa femme de chambre, m'a dit « Madame vous attend dans la petite pièce à côté, elle est à la télévision ». Alors je lui ai dit, écoutez, je vais attendre là. Non, non, elle vous attend, elle veut que vous alliez là-bas. Alors elle m'a conduite là et elle était assise sur un petit canapé devant la télévision qui relatait le mariage de Nazis avec la dame des États-Unis. Et elle m'a dit, viens là et donne-moi la main. Je me suis assise à côté d'elle et nous avons regardé jusqu'au bout l'émission de ce mariage avec Jackie. Voilà, et elle m'a dit, maintenant, j'ai vraiment besoin d'aller chanter. Voilà.
D'amour, l'ardente flamme, l'air de Marguerite, de la damnation de Faust de Berlioz, avec Maria Callas et l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, que dirigeait Georges Prêtre. Ainsi s'achève le deuxième volet de La mémoire retrouvée de Janine Reiss, une émission de Gaël Le Gallic, enregistrée en juillet 2002. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette archive vous attendent bien sûr sur le site francemusique.fr, à la page des Trésors de France Musique. Nous étions aujourd'hui avec Béatrice Trichet pour la réalisation, avec Adelino Mello à la prise de son, en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.